enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alléluia. Ce matin, nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et on va commencer par lire dans Jean chapitre 10, verset 10. La raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre et aussi la raison pour laquelle nous vivons sur cette terre. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Quand on parle du voleur et qu'on parle du berger, on parle de deux royaumes, de deux choses qui sont opposées l'une à l'autre. Comme moi, vous connaissez, parce que vous avez eu certainement dans votre vie les effets de ce que le voleur a pu faire quand vous n'étiez pas sauvé, ou peut-être même en étant sauvé, parce qu'il arrive parfois que même quand on appartient à Jésus, il se trouve que nous puissions expérimenter certains problèmes. Donc le diable ne vient que pour dérober. Pour dérober quoi? Pour dérober ta vie. Voilà la raison pour laquelle le diable est là et qu'il agit. Pour dérober ta vie. Pour dérober ta joie. Pour dérober ta paix. Pour dérober tout ce qu'il peut te dérober parce qu'il est voleur. Vous savez, il y a différents types de voleurs. Il y a des gens qui veulent voler quelque chose à une autre personne, mais ils sont intéressés par une chose en particulier. Certains, par exemple, voleurs seront intéressés seulement par la télévision qui est dans ton salon. D'autres, un autre sera peut-être intéressé par le pare-brise de ta voiture. Ça, c'est différents types de personnages. Le diable est intéressé par une chose, te dérober tout ce qu'il peut te dérober. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 4 verset 27: ne donnez pas accès au diable, ne lui donne pas un territoire, un terrain géographique, parce qu'il va venir pour te dérober. Pas seulement dérober comme le dit le passage que nous étions en train de lire, égorger et détruire. Ça, c'est ce que nous trouvons dans ce monde. Dans ce monde, nous trouvons les œuvres du diable. Dans notre vie, dans le passé, quand nous n'appartenions pas à Jésus, nous trouvions les œuvres du diable. D'une certaine manière ou d'une autre manière. Et même en tant qu'enfant de Dieu, nous savons tous que le diable essaye de se faufiler d'une certaine manière. Pour égorger, pour dérober, égorger, détruire. Ce qu'il peut dérober, égorger ou détruire. Dans nos vies, dans notre travail, dans nos familles, dans nos circonstances. Et c'est pour ça que continuellement, quand nous sentons et que nous voyons ces choses, nous lui opposons la parole de Dieu.
Amen.
Parce que je n'ai pas l'intention de vous parler du diable pendant toute cette prédication. Parce qu'il n'en vaut pas la peine. Mais ce que je veux, c'est vous dire face à ces choses, en opposition à ces choses, il y a Jésus qui est venu. Et il n'est jamais parti. Il est au ciel, c'est vrai aujourd'hui. Mais il n'est pas parti dans le sens où le Saint-Esprit maintenant est sur la terre pour nous communiquer tout ce qui vient de Jésus. Pourquoi Jésus est-il venu? Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Voilà pourquoi Jésus est venu. Pour que tu aies cette vie abondante et que tu puisses témoigner, c'est-à-dire montrer. Un témoignage, c'est le reflet de quelque chose qui est vécu. C'est dire avec ta bouche ce que tu vis dans ta vie. C'est ça un témoignage.
Amen.
Un témoignage, ce n'est pas un discours.
Un
témoignage doit absolument être le reflet de la réalité. Sinon, c'est un mensonge. Amen.
Amen.
Tu peux dire Dieu est bon et c'est vrai.
Ça,
c'est la vérité. Mais dans quel niveau de ta vie tu peux témoigner de la bonté, de la fidélité, de l'intervention de Dieu dans ta vie? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et pourtant, il est le même pour les uns, pour les autres. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'éternel qui ne change pas. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire dans le présent. Et il peut encore le faire dans le futur. Maintenant, tout dépend des hommes. Parce que pour ce qui concerne le Seigneur, de son côté, il est celui qui dit oui et
amen.
Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Si le Seigneur te dit, je veux te bénir, qu'est-ce que tu réponds? Comment est-ce que tu vas te positionner par rapport à la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux? Quel est le désir de ton cœur par rapport à toutes ces choses? Vous savez, il n'y a pas 36 possibilités. Soit tu marches avec le Seigneur, tu expérimentes sa bonté, et tu débordes de cette vie abondante pour laquelle il est venu. Il est venu pour que tu aies la vie, que tu l'aies avec abondance. Donc soit tu vis dans cette dimension, ou soit tu vis dans l'autre dimension, dans la dimension où le diable qui vient pour dérober, égorger et détruire. Et vous savez comme moi que les voleurs, quand ils veulent voler quelque chose, en principe, ils sont malins. Je ne pense pas qu'un voleur puisse venir s'annoncer chez vous, frapper à la porte et vous venir vous voir.
On
dit, aujourd'hui, je viens chez toi parce que j'ai l'intention de te voler, de te prendre tout ce qui t'appartient. J'ai l'intention aussi de ruiner ta vie. J'ai aussi l'intention de te rendre très malade, de t'amener dans le désespoir et dans la dépression. Généralement, les personnes qui voudraient faire cela ne vont pas s'annoncer de cette manière. Parce que s'ils s'annoncent de cette manière, vous allez faire la chose suivante. Les jeter dehors. Leur dire, mais moi je ne veux pas de toi. Afin de pouvoir réussir dans leur plan, les voleurs sont malins. Ils vous mentent. Ils essayent de distraire votre attention pour que, quand vous ne vous y attendez pas, ils vous prennent ce qu'il vous appartient. Je me rappelle quand on est arrivé au Burundi en 1994, j'allais dire 74, non, quand même pas. En 1994, un jour, 94. Un jour, je suis allée au marché pour acheter un matelas. Parce qu'à cette époque, les matelas se vendaient au marché central.
Et
on avait une camionnette. Et dans la
camionnette,
j'avais un casier. Donc, j'étais à côté, en train de surveiller mon casier. Et j'avais envoyé quelqu'un pour aller me chercher un matelas. Et il y a un voleur qui est venu. Il ne s'est pas approché en me disant, tu sais, je vais voler ton casier. Parce que s'il avait fait ça, je me serais assise sur mon casier. Parce que, alors si, surtout à l'époque, j'avais quand même quelques kilos en plus, s'il avait dû soulever le casier plus moi, il aurait dû faire alors qu'il soit très fort.
Mais
il n'a pas fait ça. Il a fait comme font les voleurs, mais moi je n'étais pas au courant à l'époque parce que j'étais nouvelle ici. Il m'a fait, oh, regarde ton pneu là, il est dégonflé. Regarde. Et puis moi j'étais, mais laisse-moi. Et puis il était, mais regarde. Là. Et finalement je me suis dit, bon peut-être qu'il est en train de me montrer qu'il y a un problème. Alors je me penche. Et au moment où je me penche, il y a son complice qui arrive derrière, qui prend mon casier et qui part en courant. Les voleurs sont malins. Même s'ils ont toujours les mêmes techniques que
Naho,
vous connaissez. Quand un voleur te fait, vas-y, mets-toi ici. Fais-moi. Quand un voleur te fait ça, tu sais ce que tu dois faire. Regarde de l'autre côté. Amen.
Amen.
Parce qu'un voleur est un menteur.
Et
ça, c'est le diable. Le diable. Quand il veut attirer ton attention sur quelque chose, ce n'est pas parce que cette chose est bonne. Ce n'est pas parce que cette chose est profitable. Simplement, il veut t'entraîner par là. Parce que quand tu pars par là, il te vole par là. Il te détruit par là. Et au moment où tu t'en rends compte, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait voler quelque chose dans ma vie. Je me suis fait détruire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies avec abondance. C'est pour ça que quand le Seigneur te fait, tourne-toi vers lui.
Ne
regarde pas de l'autre côté. Amen.
Amen.
Parce que quand tu te permets de regarder de l'autre côté,
parce
que je sais que le Seigneur parle. Parle à plusieurs. Sur différentes choses. Sur différentes situations. Des circonstances de ta vie. Des choses dans lesquelles il veut t'amener. Des choses dans lesquelles il veut que tu t'engages. Le Seigneur te parle. Et toi, tu fais semblant de ne pas entendre. Le Seigneur te montre à droite. Et toi, tu regardes à gauche. On va lire ensemble un verset dans Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset
6.
Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voyez, Jésus dit, je suis le chemin. Pourquoi est-ce qu'il dit, je suis le chemin? C'est parce qu'il n'y en a pas d'autre. Amen.
Amen.
Il n'y en a pas d'autre.
Naïnde.
Tous les autres chemins sont de faux chemins ou de mauvais chemins. Je pense que ça nous est tous arrivé de nous promener ou de chercher notre route parce que nous désirions aller quelque part. Et tu prends une rue et tu te rends compte que c'est une rue sans issue. Tu arrives au bout de la rue, il y a une maison et la rue ne va pas plus loin. Ça, c'est ce qu'on appelle un faux chemin. Un chemin qui mène nulle part. Amen.
Amen.
Nous avons tous aussi pris des chemins qui ne nous conduisaient pas à l'endroit désiré. Et encore, je ne parle pas des choses les plus graves. Un jour, je voulais aller à la prison. Il y a quelques années de cela, vous savez, on prend la route qui va à Musaga, et à un moment donné, on tourne sur la droite, et il y a un pont qu'il faut traverser. Et je sais, c'était pas hier ni la semaine dernière, mais il y a eu, pour différentes raisons, peut-être des pluies torrentielles, je ne sais pas quel défaut, en tout cas, la route a été coupée. Et j'ai pris ce chemin comme je le prenais avant, à l'époque, quand la route n'était pas coupée.
Et
je suis arrivée, j'ai vu que c'était effondré. Alors, j'aurais pu me dire, parce que certains font cela avec leur propre vie. C'est le chemin que j'ai choisi de prendre. J'y vais quand même. Et si j'avais fait cela, oui, le pont est là. Mais entre la fin de la route et le pont, il y avait une rupture de la route. Et si j'avais continué, je serais partie dans la rivière. Vous allez me dire, mais c'est tellement élémentaire. Mais ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde. C'est élémentaire quand il s'agit de prendre ce genre de chemin dans le domaine naturel, mais dans votre vie. Certains d'entre vous, c'est ce que vous faites. Vous prenez le chemin qui vous mène là où vous vouliez aller. Vous voyez que la route est coupée et vous voulez quand même aller plus loin. Et si vous le faites, vous risquez de tomber dans la rivière. Quand on voit qu'on a pris ce genre de chemin qui n'est pas juste et qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Demi-tour. Amen.
Amen.
Faire demi-tour. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan biblique, faire demi-tour? Ça veut dire se repentir. Ça veut dire reconnaître. J'ai fait une erreur. Je me suis trompée. Vous savez, dire qu'on s'est trompé, c'est une preuve d'intelligence. N'est-ce pas? Dire quand on se trompe, quand on fait une erreur, et qu'on dit « je me suis trompé », j'ai fait une erreur, c'est une preuve d'intelligence. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais que tu fais fausse route, tu te mets toi-même en position de faire bonne route. Amen.
Amen.
Alors que si tu refuses de reconnaître que tu t'es trompé, tu peux rester devant cette route qui ne mène nulle part, qui est dangereuse ou qui est cassée, jusqu'à la fin de tes jours. Mais dire, je me suis trompé de chemin. J'ai fait une erreur. Je fais demi-tour. C'est une preuve d'intelligence. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Nous faisions tous route vers l'enfer. Vous et moi, on ne connaissait pas le Seigneur. La plupart d'entre nous, nous n'avons pas eu la chance de grandir dans des familles chrétiennes. Et même quand on grandit dans une famille chrétienne,
ce
n'est pas forcément une référence. Parce que chacun doit faire avec le Seigneur son expérience. Donc nous marchions tous en direction de l'enfer. Nous étions tous dans nos péchés. Et avec toutes les conséquences que cela implique. La pauvreté, la maladie, le désespoir, la dépression. Mais un jour, nous avons entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons compris que Jésus est venu pour que nos péchés puissent être
pardonnés.
Et qu'est-ce que nous avons fait? Une chose. Nous avons reconnu que nous étions pécheurs. Parce que Jésus ne peut pas pardonner les péchés de quelqu'un qui ne les reconnaît pas. Pour pouvoir recevoir le pardon, nous devons reconnaître nos péchés. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de faire demi-tour. C'est de changer de direction. Et c'est ce que vous avez fait pour la plupart d'entre vous. C'est ce que j'ai fait aussi. Ça fait qu'aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le ciel. Donc, reconnaître qu'on se trompe quand c'est le cas et faire demi-tour, c'est une preuve d'intelligence. Mais s'entêter dans nos erreurs, s'entêter à marcher sur un chemin qui ne mène nulle part, quand on le voit, quand on le comprend, parce que je sais que pour tout le monde, nous avons à certains moments de notre vie pris des directions qui n'étaient pas les bonnes et on ne s'en rendait pas compte. On ne le voyait pas. Mais un jour, on s'en est rendu compte. Et quand on se rend compte qu'on se trompe, on doit changer de chemin. Amen.
Amen.
Amen. Parce que quand on persévère dans nos erreurs,
ou si vous
préférez quand on persévère dans nos péchés, on en mangera les fruits. Et je vous assure qu'il y a certains fruits que vous n'auriez pas envie de manger. Amen. Certains fruits qu'on n'a pas envie de manger. Mais on est obligé de le faire quand on persévère. Amen. Jésus est le chemin. Il est le seul chemin. Et je vous assure, pour nous tous, c'est quelque chose qui est rassurant. Quand il y a plusieurs possibilités et que nous sommes placés devant un choix, je pense que ça arrive notamment aux jeunes. Les jeunes, certains d'entre vous, vous êtes en fin de vos études secondaires où vous allez devoir prendre une décision pour vos études universitaires et choisir ce que l'on va faire plus tard, ce n'est pas une chose facile parce que cela engage toute notre vie. Cela engage tout notre avenir. Quand on pose la question aux petits-enfants, ils ont tous envie d'être policiers et docteur. Et les filles, elles ont toutes envie d'être infirmières, coiffeuses ou maîtresses. Pour les petits-enfants, le choix est toujours facile. Mais en grandissant, on voit qu'il y a tellement de possibilités. Et chaque possibilité a des implications. Et faire un choix, ce n'est pas une chose facile.
Moi,
je connais pas mal de jeunes qui commencent leurs études dans un domaine. Et au bout d'un moment, au bout d'une année, ils se rendent compte, non, ça ne me plaît pas. Ça ne correspond pas à ce que je veux. Alors, ils font demi-tour, ils changent. Je connais quelqu'un. Il a dû faire au moins 3 ou 4, peut-être même 5. Première année. Dans un domaine. Puis dans un autre. Puis dans un autre. Puis encore dans un autre. Amen.
Amen.
Amen. Mais savoir que Jésus est le chemin. Je vous assure que c'est rassurant. Même pour tes études d'ailleurs. Entre nous soit dit, même pour tes études, si tu es au point de rentrer à l'université, plutôt de faire tout ce que tout le monde fait, demande au Seigneur, quel est ton chemin pour ma vie? Parce que c'est là où tu seras vraiment bien. Parce qu'il sait pourquoi tu es fait. Il sait là où tu vas réussir. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne les études, je ne sais pas pourquoi, je sens vraiment que le Saint-Esprit insiste autant. Les études, la vie professionnelle, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen. Amen. C'est juste un moyen. Un moyen qui va te permettre de pourvoir à tes besoins. Un moyen qui va te permettre d'être à l'aise financièrement, pouvoir élever ta famille et surtout au-delà de cela pouvoir servir le Seigneur, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Je vous rappelle, frères et sœurs, que nous sommes nés sur cette terre en n'ayant rien. Personne n'est né, même on n'avait même pas de vêtements, on n'avait avec rien. Et le jour où tu vas mourir, tu n'emporteras rien, rien du tout. Mais par contre, ta vie dans l'éternité sera récompensée d'après ton obéissance à ce que le Seigneur te demande. Donc, comme je vous le dis, nos études, nos carrières, notre position professionnelle, ce n'est rien de plus qu'un véhicule, un véhicule pour notre vie. Et ce n'a pas vraiment une très très grande importance. Cela a une importance. Parce que la Bible dit que nous devons tous travailler de nos propres mains. Mais travaille dans le domaine qui te convient et qui te permettra de marcher dans la volonté de Dieu. Savoir que Jésus est le chemin, c'est vraiment rassurant pour notre vie. Parce que je pense que ça nous est tous arrivé. Peut-être qu'étant enfant, ou étant adulte, mais plus souvent enfant, parce que quand on est enfant, on ne connaît pas très bien les rues, les avenues, les endroits dans lesquels nous allons. Ça nous est tous arrivé de nous perdre. Et ça nous est tous arrivé aussi de marcher sans vraiment savoir c'est là ou c'est pas là. Et de voir au résultat que c'était bien le bon endroit. Je vais vous dire une chose qui est tellement importante pour vos vies. Le fait de savoir que tu marches sur le bon chemin, c'est tellement rassurant, c'est tellement réconfortant, c'est tellement encourageant. Parce que Jésus dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit que le chemin serait forcément facile. Il n'a pas dit que le chemin serait bordé de pétales de rose. Mais il a dit la chose suivante. Je serai avec toi. J'agirai en ta faveur. J'aplanirai le chemin. Je te soutiendrai. Je t'encouragerai. Et je t'amènerai en sûreté à la destination finale. Et je vous assure que c'est rassurant. Par contre, si tu ne marches pas sur le bon chemin, comment peux-tu espérer que le Seigneur va marcher avec toi sur ton chemin? Il ne le fera pas. Il ne le fera jamais. Rappelez-vous, il est l'Éternel qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus. Il t'aimera toujours. Mais il attendra toujours que tu changes de direction pour revenir sur son chemin. Ne perds pas des années. Des années et des années. Parce que le temps passe. Et il ne revient pas. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ta vie. En marchant sur un chemin qui n'est pas celui que Dieu a pour toi. C'est un chemin qui est sûr. C'est un chemin de paix. C'est un chemin de bonheur. C'est un chemin de réussite. Parce que c'est Jésus. Il est le chemin. Bien sûr, il est le chemin qui mène au ciel. Mais sache aussi que pour ta vie, il est le chemin. Et c'est seulement sur ce chemin que tu peux trouver la vie abondante. Vous savez, le monde court. Ce monde court après des carrières. Ce monde court après des positions. Ce monde court après l'argent. Regardez autour de vous. Tous ces gens qui ont des positions ou qui ont de l'argent ou qui ont des carrières et qui n'ont pas marché sur le chemin de Jésus, ils sont tous amers, déprimés, tristes, sarcastiques parfois. Ils se sentent tellement mal. Vous savez, dans ce monde, ce
ne
sont pas les pauvres qui se suicident. Forcément. Il y a des pauvres qui se suicident. Mais regardez parmi les riches, les gens qui ne manquent de rien, les gens qui ont des noms, qui ont de l'argent, qui sont connus. Il y a eu pendant une époque tout un tas de stars, de gens qui étaient adorés, qui avaient de l'argent à ne plus savoir quoi en faire, qui se sont suicidés les uns après les autres. Si c'était ces choses qui font le bonheur, ces gens auraient été heureux. La seule chose qui peut te procurer véritablement le bonheur, et ça je vous le dis parce que je sais que c'est vrai, c'est de marcher sur le chemin que Jésus a tracé sur ta vie. C'est seulement là que tu trouveras le bonheur. C'est seulement là que tu trouveras la paix. La paix. Il n'y a rien de plus précieux que de vivre en paix. Que de s'endormir en paix. Que de se lever en paix. Il
n'y
a rien de plus précieux. Et c'est sur ce chemin-là seulement
que
tu le trouveras. C'est seulement là que tu trouveras la vie, la vraie vie, pas cette vie brillante que le monde t'offre. Vous savez ce que c'est qu'un verre luisant? Un verre luisant, c'est un verre, un petit animal comme ça, luisant, luisant, qui brille la nuit. Il
n'y
en a pas au Burundi?
Il
y en a. Il y a aussi ces insectes qui brillent la nuit, qui volent comme ça. C'est des lucioles, non? Et quand on est dans le noir, on voit ces vers luisants. C'est magnifique. C'est une lumière verte, un peu verte, très jolie. Et ces lucioles aussi, c'est vraiment très joli dans la nuit. Je
ne
sais pas si vous vous êtes déjà amusé à en prendre un et à les regarder à la lumière. Tu vois ça? Tu le jettes parce que c'est affreux. Qui peut être intéressé par le fait de prendre un verre, un asticot. Tu prends un verre, tu mets dans ta poche, tu l'emmènes chez toi. Comme il est brillant, tu peux dire c'est un diamant, c'est une émeraude. Tu mets ça dans une boîte à bijoux, c'est magnifique. Mais quand tu amènes ça en pleine lumière, ça te fait horreur. Ces petites lucioles, ces petits insectes brillants, c'est la même chose. Ça brille dans la nuit, mais dans le jour, c'est d'une laideur sans nom. Ça, c'est les attraits. Les choses que le monde te montre avec son péché, avec sa pourriture. Et comme le monde est ténébreux, dans les ténèbres, c'est luisant et c'est séduisant. Mais tu prends ces choses, tu les amènes à la lumière, ça te donne envie de vomir. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est parce que tu n'as jamais vu ces choses à la lumière de Dieu. Et si tu refuses de les voir comme Dieu les voit, ça va dérober, égorger, détruire ta vie. Pourquoi briser sa vie? Pourquoi accepter de laisser notre vie se briser par des choses qui n'en valent même pas la peine, alors qu'il y a un chemin, un chemin qui est sûr, la voie sainte que le Seigneur a préparé pour ta vie, là où tu trouveras la vie abondante. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Le chemin, la vérité. Et là encore, c'est une grande question pour vous et pour moi. N'est-ce pas? C'est une grande question. Qu'est-ce que la vérité? Où se trouve la vérité? Nous sommes confrontés à ce problème jour après jour. Entre ce que nous voyons, ce que nous croyons voir, ce que nous entendons et que nous croyons entendre, savoir ce qui est vrai et savoir ce qui ne l'est pas. Parfois c'est évident, mais parfois ça ne l'est pas. Nous sommes confrontés continuellement à ce problème. Quand on parle avec les gens, il y en a un qui te dit X, l'autre qui te dit Y, l'autre qui te dit Z. Et quand tu écoutes tout le monde, même parfois des gens qui sont bien intentionnés, je ne parle pas des menteurs, je dis même des gens parfois qui sont bien intentionnés, tu peux te poser la question, te dire, mais au fait, dans tout ce que je viens d'entendre, où est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Amen. Amen.
Amen.
Vous savez, la vérité, c'est tellement important. Parce que dans la vérité, il y a la réussite. Sans vérité, c'est l'erreur. C'est la chute. Amen. Amen. Jésus est la vérité. Et nous avons tellement besoin de comprendre, de connaître la vérité, afin de ne pas nous égarer. Que ce soit par des personnes mal intentionnées. Vous savez, dans ce monde, dans cette vie, autour de nous, il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Vous qui travaillez, qui avez une vie professionnelle, où que ce soit, sachez qu'autour de vous, dans votre bureau, ou dans votre entreprise, ou parmi vos employés, vos domestiques, je ne sais qui d'autre, il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Et vous pourrez leur dire n'importe quoi. Vous pourrez faire n'importe quoi. Elles seront toujours mal intentionnées. Mais bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui est mal intentionné, il se comporte comme un fils du diable, même si parfois ça peut être un enfant de Dieu. Et qu'est-ce que va faire quelqu'un de mal intentionné? Il
ne
va certainement pas faire cela. Il ne va certainement pas venir te voir et te dire, moi, j'ai envie de te détruire. Je veux ta peau. Je ne t'aime pas. J'ai l'intention de te prendre ta place. J'ai l'intention de t'écraser, de te ridiculiser, de t'amoindrir, de te voler ce que tu es, de te voler ce que tu as. J'ai absolument l'intention de t'empêcher d'entrer dans ce que Dieu a pour ta vie. Si quelqu'un vient te dire cela, qu'est-ce que tu vas lui dire? Va voir ailleurs si j'y suis. N'est-ce pas? C'est ce que tu vas lui dire. Mais les personnes mal intentionnées, elles ne font pas ça. Parce qu'elles agissent avec l'esprit du malin, l'esprit du diable.
Ils
te font croire qu'ils sont tes amis,
ils
te font croire qu'ils te supportent, même si parfois il y a des grincements, des pincements, des choses bizarres qui arrivent,
et ça s'arrangeront
toujours pour que tu, pour avoir le bénéfice du doute, pour que tu sois troublé dans la confusion, Oh non, quand même, j'exagère. De penser que cette personne ne m'aime pas. Vous savez, le diable sait utiliser même la parole de Dieu contre nous. Dans ces moments-là, te dire, tu exagères. La Bible dit qu'il faut s'aimer les uns les autres. La Bible dit qu'il ne faut pas avoir de soupçons. Franchement, tu exagères de penser des choses comme cela. Et cette personne mal intentionnée sur ton chemin essaiera toujours de te faire croire qu'elle est avec toi, qu'elle est pour toi, alors qu'en réalité, elle est contre toi. Et elle mettra tout en œuvre pour t'empêcher d'accomplir ta destinée, pour t'empêcher de réussir et t'empêcher avec le sourire. Oh, ça, ce n'est pas pour toi.
Ce
n'est pas à ton niveau. Non. Mais je t'aime bien quand même. Je peux t'aider autre part. Je vais te soutenir dans autre chose. Etc. etc. Je vous assure, frères et sœurs, que nous avons besoin de connaître la vérité. Nous en avons tellement besoin. Tellement besoin. Ces gens existaient du temps. Dès les premiers temps de la parole de Dieu. Ils existaient du temps de David, de Samson, de Samuel, de Néhémie. Relisez le livre de Néhémie. Vous verrez la méchanceté des gens mal intentionnés. Mais Néhémie, c'était un homme de vérité. Il a pu voir et comprendre toutes ces choses. Il a pu les comprendre et les surmonter. Non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il aimait le Seigneur, qu'il marchait sur le chemin du Seigneur et qu'il avait l'amour de la vérité en lui. Nous avons tellement besoin de voir clair, de comprendre, sans être paranoïaque. Parce qu'on n'a pas besoin de voir le mal partout ou des gens mal intentionnés partout, parce qu'il n'y en a pas partout. Il y a des personnes qui sont très bien, très gentilles, honnêtes, véritables, de véritables amis. Cela existe, mais il n'y a pas que cela dans ce monde. Jésus est la vérité. Tu as tellement besoin de la vérité, de la connaître, de la comprendre et de marcher avec la vérité. Sinon, je t'assure que tu donne un accès au diable. Et comme je vous le disais, Ephésiens 4, 27 dit, ne donnez pas un accès au diable. Parce que si tu lui donnes un accès, lui qui est menteur, qui est venu pour dérober, égorger, détruire,
ne
se gênera pas. Il ne se gênera pas pour faire ces choses. Il est le chemin, la vérité. Il est la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas véritablement de vie. Amen.
Amen.
Les hommes courent pour s'occuper, pour faire des choses qui peuvent leur plaire, les soulager. Mais au fond d'eux, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie abondante. Jésus veut que tu vives. En vivant une vie abondante. Amen.
Amen.
On va prier ensemble.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.